Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du mardi 11 janvier avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir avec un fonds d'indemnisation.
Créé pour les victimes de l'explosion il y a 3 ans de la rue de Trévise à Paris, un accord a été trouvé afin que les dommages soient pris en charge avant le futur procès. Un soulagement pour les associations qui s'inquiètent toutefois de savoir quand l'argent sera vraiment versé. On y revient en début de journal. L'obligation vaccinale chez les soignants continue de faire des vagues en Guadeloupe. Nouvelle violence hier devant le CHU de Pointe-à-Pitre. Des violences aussi contre les élus ces dernières semaines en France, dénoncées avec force aujourd'hui par tous les chefs des groupes parlementaires à l'Assemblée, arrivés ensemble au sein de l'hémicycle. À suivre aussi le don de sang bientôt ouvert aux homosexuels, sans condition. Le Kazakhstan déchiré par la guerre des clans et Thibaut Pinot au départ du prochain Tour de France.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir on se penche sur ces pays d'Afrique pris à nouveau par le démon du putsch et la dérive autoritaire. Il y a une sorte de contagion. Nous commencerons la liste avec le Soudan et puis nous irons au Tchad, en Guinée, au Mali avec le premier invité ce soir à 19h20. C'est le téléphone sonne. Nous parlons héritage et succession. L'impôt sur les successions, c'est le plus détesté en France, alors que la plupart des gens n'en payent pas d'ailleurs. Il est trop lourd pour certains. L'héritage, c'est un facteur d'inégalité tel pour d'autres qu'il faudrait le supprimer. Au milieu, quelles dispositions permettraient de mieux vivre les transmissions? Le sujet est devenu un thème de campagne. C'est aussi le téléphone sonne ce soir avec vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ça fera donc 3 ans demain qu'une énorme explosion ravageait la rue de Trévise en plein cœur de la capitale.
4 morts, 66 blessés, 400 riverains sinistrés suite à une fuite de gaz massive. 3 ans après, les responsabilités ne sont toujours pas établies. Un procès aura lieu, mais pas avant 2023 ou 2024. Sauf qu'en attendant, les victimes, elles, ne sont toujours pas indemnisées. Elles doivent avancer elles-mêmes des frais importants, chaussures orthopédiques, séances de psy, chirurgie esthétique. Et c'est pour couvrir toutes ces dépenses qu'un accord cadre a enfin été signé aujourd'hui après 3 ans de négociations entre la ville de Paris, Engie, les assureurs. L'annonce en a été faite par la mairie de Paris qui abondera le fonds à hauteur de 20 millions d'euros. Une étape cruciale pour les associations qui restent toutefois vigilantes sur l'application de cet accord. Sandrine Etoa-Andegue.
Soulagée et prudente, Linda Zaouar, présidente de l'une des deux associations de victimes de l'explosion de la rue de Trévise, s'interroge. Pourquoi une telle lenteur pour arriver à un accord?
Enfin, on voit le bout du tunnel. On le sait, pour les accidents collectifs, en moyenne, c'est 6 mois pour la mise en place d'un accord cadre. Et là, on se retrouve à 3 ans. On ne comprend pas. Pour une prise en charge, un devis médical, des soins qui sont liés aux blessures, liés à l'explosion. C'est pas possible d'avoir à ramer autant. Il y a une défaillance, oui, clairement.
Défaillance de l'État, selon elle, au détriment des centaines de victimes, notamment celles handicapées à vie, dont les vies et les espoirs sont brisés. Compte tenu des préjudices corporels, psychologiques et économiques, 20 millions d'euros, c'est insuffisant, insiste Dominique Paris de l'association Trévise Ensemble.
Le préjudice avait été évalué à plus de 200 millions d'euros. Donc vous avez 400 ou 600 victimes, vous avez 3 hôtels qui ont été fermés, vous avez l'hôtel aussi Diva à côté qui a été fermé pendant plus de 6 mois, vous avez toute la reconstruction des immeubles.
3 ans après l'explosion, les 4 immeubles les plus touchés sont simplement consolidés pour éviter qu'ils ne s'écroulent.
Sandrine Etoa-Andegue.
La circulation du virus ne faiblit toujours pas en France.
350 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. À l'école, le nouveau protocole, 3 autotests au lieu d'un PCR suivi de 2 autotests, est accueilli très fraîchement par les syndicats. Des changements qui ne répondent en rien aux attentes des enseignants, lance le SNUIP FSU en pointe dans la grève de jeudi qui s'annonce très suivie. 75% de grévistes et la moitié des écoles fermées prévoient le premier syndicat d'enseignants du primaire. Les sénateurs, pour leur part, ont commencé aujourd'hui l'examen de la loi sur le pass vaccinal qu'ils souhaiteraient voir désactiver automatiquement dès qu'on passe sous la barre des 10 000 patients hospitalisés. Le pass sanitaire comme le pass vaccinal qui continue toujours de secouer fortement la Guadeloupe où seul 1/3 de la population est vaccinée. Hier, nouveaux affrontements entre forces de l'ordre et manifestants aux environs du CHU, Yann Gallic.
Oui, les forces de l'ordre sont intervenues pour démanteler Manu Militari, le piquet de grève qui était installé à l'entrée du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. S'en est suivi des échanges de gaz lacrymogène et de jets de pierre. Selon le préfet de Guadeloupe, Alexandre Rochat, il était temps de remettre de l'ordre aux abords de ce CHU, alors que l'archipel est en plein regain épidémique. Le préfet au micro de la radio RCI.
Nous avons mis en œuvre une décision de justice qui était celle de dégager tous les accès du CHU pour que l'ensemble des personnels soignants, mais aussi des malades, puissent y avoir accès. On a mis en œuvre ce qui nous avait été demandé par une grande partie de la population, c'est-à-dire la sanctuarisation du CHU.
Des barrages routiers ont à nouveau été érigés sur certaines routes et certains ronds-points. Le collectif des syndicats contre l'obligation vaccinale exige toujours l'ouverture de négociations et la réintégration immédiate des personnels soignants suspendus sur fond de revendications sociales multiples. Elie Domota est l'un des leaders du LKP à l'origine de la contestation.
Nous n'avons absolument rien à perdre. Les gens qui sont suspendus, ils ont déjà tout perdu. Donc aujourd'hui, la seule solution, mais c'est continuer à se battre. Nous exigeons toujours la venue d'une délégation interministérielle pour poser les vrais problèmes sur les problématiques liées à l'application de la loi sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale et tous les autres sujets qui sont sur la plateforme de revendication.
En attendant, les syndicats ont prévu de nouvelles actions dans les prochaines semaines et ils appellent à manifester dès samedi dans les rues de Pointe-à-Pitre.
Yann Gallic, nouvelle journée de manifestation des personnels hospitaliers aujourd'hui en France qui demandent des hausses de salaire et des moyens, des postes pour l'hôpital public, 3000 personnes réunies notamment à Paris, selon la CGT. C'est l'image politique du jour, les patrons de groupes parlementaires unis face à la violence contre les élus. 300 plaintes déposées par des élus depuis le mois de juillet, une agression encore ce week-end contre le député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon, une montée de la haine contre les hommes et les femmes politiques qu'entendaient dénoncer de façon solennelle donc les parlementaires. Bonsoir Anne Souhaitement.
Bonsoir.
Le président de l'Assemblée a voulu marquer le coup.
Oui, et c'est un moment rare, surtout en cette période de bataille politique sur le front sanitaire. Les patrons des 9 groupes politiques de l'Assemblée sont donc symboliquement arrivés cet après-midi, tous ensemble dans l'hémicycle, au son des tambours de la garde républicaine, pour dénoncer les violences, agressions d'élus qui, vous l'avez dit, se sont multipliées ces dernières semaines. Tous ensemble, derrière le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui a pris la parole avant l'ouverture de la séance.
Je tiens à dire solennellement que l'Assemblée nationale sera toujours aux côtés de ses membres menacés ou attaqués, y compris sur les réseaux sociaux. Ce sont les principes de la démocratie et de la République qui sont en cause. Il est indispensable que tous les moyens de l'État soient mobilisés pour assurer la sécurité de tous les candidats comme de l'ensemble des représentants de la nation, quels que soient leurs engagements, et bien sûr le déroulement serein du débat électoral.
Richard Ferrand qui a été très applaudi par un hémicycle debout et avant une réunion ce soir avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice. 60 élus ont été menacés depuis le début de l'année, il y a 11 jours seulement.
Anne Souhaitement, de son côté, Jean Castex, le Premier ministre, réunissait lui les principaux candidats à la présidentielle en visioconférence pour installer officiellement une instance de dialogue à 3 mois du scrutin. Les LR, pour leur part, ont saisi la commission des comptes de campagne sur le déplacement d'Emmanuel Macron hier à Nice sur la sécurité, dont les Républicains estiment qu'il s'apparente non pas à une visite présidentielle, mais un déplacement de campagne. En politique encore, cette initiative pour tenter de rallier ceux qui désertent les isoloirs. L'association citoyenne A Voter lance aujourd'hui un chatbot, un robot conversationnel avec la messagerie WhatsApp pour tenter d'accompagner les non-inscrits, les mal inscrits vers le chemin des urnes. Concrètement, Julien Baldacchino, l'outil permettra d'obtenir notamment des conseils pratiques sur l'inscription aux listes électorales.
Un simple bonjour à envoyer par message et la conversation démarre. Le robot vous oriente, tel un intermédiaire, vers les rubriques du site servicepublic.fr. Elisa Boriestrade est responsable des politiques publiques chez Meta.
C'est vraiment les aider à résoudre ces problèmes, le pratique et administratif. Donc toujours bien sûr en les redirigeant vers ce site servicepublic.fr, on ne pourra pas faire les démarches directement depuis le bot. L'idée c'est d'être un peu leur assistant personnel sur le chemin des urnes.
Objectif, aider les utilisateurs à vérifier qu'ils sont bien inscrits et surtout au bon endroit. L'association A Voter bénéficie du soutien technique et financier de Meta, qui n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine.
On a travaillé pas mal au développement de bots sur WhatsApp. Lorsque nous avons développé des bots en partenariat avec le gouvernement autour de l'information sur le Covid, par exemple, on a mis à disposition également des moyens financiers pour développer, concevoir et aujourd'hui donc promouvoir ce bot.
L'influence de Meta, qui possède aussi Facebook, est désormais scrutée à chaque période électorale. électorale. Avec cet outil et d'autres à venir, l'entreprise compte jouer un rôle positif dans le scrutin français.
Julien Baldacchino, c'est à retrouver également sur franceinter.fr. En bref, la fin des espoirs pour la fonderie du Poitou qui fabriquait des culasses pour Renault. Pas de repreneur envisagé, la perspective quasi certaine d'une liquidation judiciaire pour les 320 salariés. C'est une demande qu'attendaient les associations depuis des décennies. Le don de sang sera désormais ouvert aux homosexuels sans aucune condition à partir de la mi-mars. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
C'est la fin d'une discrimination qui durait depuis près de 40 ans.
Oui, à cause de l'épidémie de sida, les homosexuels ont été exclus du don de sang à partir de 1983 et jusqu'en 2016. Et encore en 2016, ils devaient respecter une abstinence sexuelle d'un an pour pouvoir donner leur sang, ramené à 4 mois depuis 2020. C'est en fait lors des débats de la loi de bioéthique promulguée en août dernier que l'abandon de ce critère a été voté, ce qui a été considéré par de nombreuses associations et le ministre de la Santé lui-même comme discriminant. À partir du 16 mars, le don de sang sera donc accessible à tous sur les mêmes critères. Il n'y aura plus de questions sur l'orientation sexuelle des donneurs dans le questionnaire qu'ils remplissent avant leur prélèvement. En revanche, la prise récente de certains médicaments seront ajoutés à la liste des produits excluant du don, à savoir les traitements prophylactiques de pré- ou post-exposition au VIH. Dans ce cas, le don sera décalé de 4 mois. L'établissement français du sang profite de cette annonce pour lancer un appel à tous les donneurs. Avec la pandémie, les poches de sang font à nouveau défaut en cette début d'année.
Hélène Chevalier.
Au Kazakhstan, les émeutes ont laissé la place au règlement de compte.
Le pays a retrouvé son calme. Les troupes russes devraient rapidement quitter le territoire, mais la tension reste très forte au sommet de l'État. Le président actuel Tokayev a pris la parole aujourd'hui pour s'en prendre à son prédécesseur Nazarbayev, cet autocrate qui aura passé 30 ans au pouvoir. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Sébastien.
Quand les émeutes se transforment en guerre des clans.
Oui, avec des arrestations de hauts responsables comme Karim Massimov, l'ancien chef des services secrets, accusé de haute trahison, et des morts suspectes. Un chef local de la police se serait suicidé, un autre aurait succombé à une crise cardiaque. Sacha Koualeva est enseignante à Sciences Po et experte de l'Asie centrale.
Il y a un règlement de compte et en tout cas un nouveau partage des pouvoirs. Malheureusement, ce sont des pratiques qu'on a pu déjà voir au Bélarus, en Tchétchénie, dans d'autres circonstances qui font craindre pour effectivement les faits tel qu'il est présenté par les autorités.
Devant le Parlement ce matin, le président Kassim Jomar Tokayev s'en est pris au père de la nation Nursultan Nazarbayev et à son clan, accusé de s'être emparé des richesses du pays. Julien Torres est chercheur au CNRS et lui aussi spécialiste de l'Asie centrale.
Kassim Jomar Tokayev, dans un grand discours, pointe du doigt toute une série d'entreprises qui étaient liées à ce clan Nazarbayev. Par exemple, le projet de construction de métro qui est lié au clan Nazarbayev au sens large du terme et en particulier à l'ancien Premier ministre M. Mamine.
Askar Mamine, remplacé aujourd'hui par Alihan Smaïlov, son mentor, l'ancien président, donc Nursultan Nazarbayev, a lui disparu depuis le début des émeutes.
Thibaut Lefebvre.
Allez, c'est officiel en cyclisme. Thibaut Pinot fera son grand retour sur le Tour de France cet été.
Et oui, ce sera cet été avec des objectifs très élevés. Le coureur l'a confirmé ce midi lors de la conférence de presse de rentrée de son équipe Groupama FDJ, Fanny Lechevestrier.
Oubliez les douleurs au dos après sa chute dès le premier jour du Tour 2020. L'année galère qui a suivi et les doutes qui ont entouré l'avenir du coureur. À 31 ans, Thibaut Pinot revient motivé.
Mes ambitions vont être simples, retrouver mon niveau, de gagner des courses de février à octobre dès que j'en ai l'occasion. C'est pas trop compliqué pour moi, je pense.
Lever les bras, une sensation que le Franc-Comtois n'a plus connue depuis le Tourmalet en 2019. Mais ses dernières sorties d'entraînement l'ont rassuré et pour tout dire, cela faisait une éternité qu'on ne l'avait pas entendu exprimer aussi clairement ses envies de Tour de France.
Le Tour de France m'a manqué. Donc voilà, l'objectif de cette année, c'est vraiment d'arriver à 100% au départ du Tour. Et comme je l'ai montré dans le passé, j'ai gagné quand même 3 étapes sur le Tour, j'ai été sur le podium, j'ai joué quand même assez haut, donc forcément on a tout de suite envie de retrouver ces sensations et de regagner dans les lieux mythiques comme j'ai pu le faire. Voilà, c'est des choses qui me manquent et j'ai envie de retrouver cette année.
Et cela tombe bien car les objectifs fixés par son manager Marc Madiot sont élevés, un podium sur les Champs-Élysées. Mais Thibaut Pinot de conclure, avec l'équipe que l'on a en montagne, si on est tous à notre niveau, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas.
Thibaut Pinot qui disputera sa première course le 18 février prochain au départ du Tour du Haut-Var.
Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Le Génie. À tout de suite, Sébastien, dans Un jour dans le monde, vous nous parlerez notamment de chiens policiers allemands. Ce soir, nous explorons l'Afrique et sa propension inquiétante en ce moment au coup d'État. Et puis, au téléphone sonne, c'est en deuxième heure de ce 18-20, nous parlons héritage. La succession, c'est le sujet qui fait vraiment réagir tous les candidats parce qu'il vous fait réagir, vous aussi. L'impôt sur les successions, c'est le plus décrié en France, alors que rares sont ceux qui le payent. Mais précisément, il nous parle d'égalité des chances, il nous parle de ceux qui savent jongler aussi avec les niches fiscales, il nous parle de taux qui sont parfois jugés confiscatoires entre ceux qui veulent baisser les droits de succession, ceux qui veulent plafonner l'héritage. À vous de nous dire, à vous de vous, nous poser vos questions au 01 45 24 7000. Allez, un œil sur le ciel juste avant.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, bonsoir. De la grisaille au programme de demain matin.
Oui, bonsoir à tous. Sur la plupart des régions, en effet, nuages bas et brouillard parfois givrant au menu. Alors ça ne durera pas, hein. Le soleil s'imposera l'après-midi. Seules quelques grisailles résisteront par endroits. Les crues se poursuivent sur de nombreux cours d'eau du sud-ouest. Soyez prudents, 8 départements restent en vigilance orange, de la côte aquitaine à la Haute-Garonne. De la Bretagne et du Val-de-Loire vers le nord de la Seine, ce sera gris demain toute la journée avec quelques gouttes en prime près de la Manche le matin. Et puis en montagne, du soleil dès le matin, même chose en Méditerranée mais avec du vent.
En revanche, il fera plus froid.
Avec de nombreuses gelées le matin, souvent moins 5 à 1 degré. Et puis l'après-midi, 2 petits degrés à Belfort, 3 à Nancy et à Lyon, 6 à Lille ou à Paris, 10 degrés à Rennes, Bordeaux et Marseille et 15 à Toulon, Fabienne.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure après 19h.